Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon lundi, bon début d'après-midi, Marianne Paquette. Bien heureuse de vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. Vous écoutez, c'est bon pour la santé. Sur Canal M, ben on peut le confirmer, l'été s'en vient à grands pas. Les derniers jours ont été marqués par la chaleur, le soleil. Un temps vraiment à nous faire rêver l'été. Été souvent synonyme de vacances, en tout cas pour certaines personnes. On le souhaite, si c'est votre cas. Là. Les vacances, ça fait toujours du bien et c'est bon pour la santé. Rêver de vacances, sûrement le cas aussi pour près de 800 000 jeunes québécois pour qui l'école primaire, l'école secondaire, mais c'est leur travail à temps plein et pour qui il reste quelques semaines de travail. Je pensais à eux, c'est les derniers marathons avant les examens pour ces enfants et ces adolescents. Donc, des milliers d'élèves aux milliers de réalités qui ont toutefois un seul objectif, ou à peu près, celui d'apprendre et, si possible, d'être heureux en le faisant, avec des défis qui leur est propre, des obstacles aussi, parfois. Je parle ici de difficultés d'apprentissage, ça peut être des soucis à la maison ou le grand défi de s'intégrer à une nouvelle communauté. Tout ça a des impacts sur leur bonheur, parfois sur leur succès, leur bonheur à l'école. Et parce que ces jeunes-là sont l'avenir de notre société. Je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'adultes de les encourager, de les soutenir dans leur réussite scolaire, ces enfants, ces adolescents-là. Cette émission est dédiée à eux. Trois invités aujourd'hui, trois femmes qui ont compris cette importance-là. Je vous les présente à l'instant. Mesdames, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être présente dans ce studio un peu sombre, justement, cette journée chaude, plutôt estivale. À ma gauche, Francine Charette, vous êtes directrice générale de l'organisme Ruelle de l'Avenir. Bonjour.
Bonjour.
Éliane Tougatelier, nutritionniste, également Ruelle de l'Avenir. Et Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro.
Bonjour.
Bonjour.
Sophie, je commence avec vous parce que vous êtes un petit peu le déclencheur de cette discussion-là, un très beau déclencheur, je dirais. Ça vient de cette conférence TEDx Montréal, présentée novembre 2015 dernier. Une conférence donc destinée à cet organisme qui est Ruelle de l'Avenir et où vous présentiez, oui, d'une part, cet organisme, mais moi, ce qui m'a interpellée, ce qui m'a sonné des cloches dès le départ, ce que je retiens, c'est cette importance de l'égalité des chances qui est si fragile et qui détermine dès le plus jeune âge le cheminement de ces enfants-là. On travaille comment, de quelle façon à aplanir ces différences-là?
Bien, écoutez, la conférence visait à présenter l'organisme La Ruelle de l'Avenir, qui est né de la volonté d'un organisme communautaire dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, centre-sud de Ville-Marie, et de celle d'hommes et de femmes de Gaz Métro. Gaz Métro, notre siège social, est ici, tout près du métro Frontenac, donc dans un quartier très riche de diversité, mais qui connaît aussi son lot de difficultés économiques. Il faut savoir que tout près de chez nous, il y a de très, très nombreuses communautés culturelles qui arrivent, donc défi d'intégration. Long story short, comme disent les Chinois, on se retrouve dans un quartier où il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, mais ces enfants-là n'ont pas tous les mêmes bases lorsqu'arrive le temps d'entrer à l'école. Pour toutes sortes de raisons, ça peut être des raisons économiques, des raisons socio-affectives, des raisons d'intégration, des raisons de langue, ces enfants-là arrivent à l'école et n'ont pas nécessairement tout le bagage émotif ou social pour rester assis sur une chaise d'école à la journée longue pour apprendre.
Ouais.
Et donc, on a lancé une idée de créer une espèce de laboratoire au départ, qui était de dire si on pouvait permettre à ces enfants-là d'apprendre leur matière scolaire, mais de manière un peu différente. Pas en isolement de l'école, parce qu'on fait ça avec l'école, C'est pas un centre d'amusement, même si l'amusement est très important. C'est vraiment leur permettre d'apprendre leur matière, mais de manière différente et complémentaire à celle qu'ils reçoivent en classe. Et c'est donc né de ça, de cette volonté-là de dire qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre quartier? Un geste lourd. On l'aime, notre quartier. On aime le quartier, on aime les gens, on aime les familles. Et c'est comme ça qu'est née la ruelle de l'avenir, de donner à ces enfants-là la même chance que n'importe quel autre enfant avec moins de difficultés socio-affectives ou social-économiques.
Mm-hmm. Francine Charette, ce qui distingue, et Sophie Brochu le mentionnait, ce qui distingue Ruelle de l'avenir, c'est cette façon d'apprendre en expérimentant. Comment ça s'articule concrètement chez vous?
En fait, chez nous, nous avons, grâce justement à l'investissement de Gaz Métro, on a pu établir des locaux qui sont vraiment magnifique. Donc, ça s'articule à chaque semaine. On reçoit de nombreuses classes. Donc, ce sont des enseignants, des enseignantes qui viennent chez nous avec leur classe participer à différents ateliers qu'ils ont au préalable choisis. Donc, ça peut être en sciences, ça peut être en robotique, ça peut être en saines habitudes de vie, ça peut être en cinéma, etc. On a différents sujets et thèmes comme ça qu'on aborde. Et donc, l'enseignant vient avec son groupe d'élèves, participe à ces ateliers-là où, dans le fond, nous, on fait exactement, je vais vous donner l'exemple, en robotique, on passe à travers le programme de mathématiques au complet de l'enseignant, mais vraiment d'un angle totalement différent. Donc, nous, oui, on va utiliser beaucoup le savoir-faire. Donc, on va y aller par expérimentation. Donc, les enfants sont vraiment dans l'action et c'est comme ça qu'ils expérimentent tout leur programme scolaire, mais d'une façon entièrement différent.
L'implication de Gaz Métro, c'est vers 2008. Vous me corrigez à peu près ça,
oui,
Sophie?
C'est arrivé en 2008 et c'est arrivé d'une idée de dire... En fait, on s'est très inspiré au départ là, de ce qu'Alice Walters faisait en Californie, où elle avait appelé ça des « edible schoolyards ». Et elle s'était rendue compte que les enfants n'habitaient pas la cour d'école l'été dans des quartiers défavorisés, oui. Avaient littéralement enlevé l'asphalte pour faire d'immenses jardins. Et pour garder des enfants qui autrement pourraient s'en aller dans des activités plus moins favorables pour leur développement. Et donc, elle avait complètement intégré l'alimentation, expliqué d'où venaient les aliments pour le mieux-être des enfants. Et c'est venu comme ça. Et le premier atelier qui est venu dans notre tête à l'époque, c'était de dire, il faut faire un atelier culinaire. Mm-hmm. Il faut faire un atelier pour apprendre aux enfants à faire à manger. Et aujourd'hui, on a... Cette merveilleuse collaboratrice qui est avec nous, Ariane, qui fait ça à tous les jours.
Eliane, vous, c'est votre travail au quotidien, donc ce contact entre la nourriture et les petits, parce que ce sont des petits, votre clientèle première, là, ça s'articule comment dans leurs yeux, cet apprentissage-là?
Quand ils rentrent dans la cuisine, ces enfants-là, ils ont des étoiles dans les yeux. La première question, c'est quand est-ce qu'on fait un gâteau au chocolat?
Ben oui, c'est
ça. Ce qui n'est pas l'atelier 1. Donc là, ils font comme, zut, pas du gâteau au chocolat. Mais d'une recette à l'autre, parce qu'ils viennent plusieurs fois. Donc, un enfant qui vient avec sa classe va venir 20 fois, va faire 20 recettes, va goûter presque à chaque fois un nouvel aliment. Donc, quand je leur dis, on va manger de la courgette, bien là, écoute, c'est pas du gâteau au chocolat, c'est un peu moins excitant.
Mais ça existe du gâteau à la courgette.
Hein? Bien, des fois, j'en glisse aussi, des légumes comme ça. Mais d'un atelier à l'autre, quand même, c'est qu'ils vont avoir le goût de goûter. Puis quand ils rentrent, c'est « qu'est-ce que tu nous as préparé cette semaine? » C'est quoi la surprise de la recette? Puis là, d'un atelier à l'autre, c'est ça. Ils ont les étoiles, ils ont le pétillement dans les yeux, puis ils adorent ça. Ils sont bons, ils manipulent, comme on disait tantôt. Ils vont casser les œufs des fois pour leur première fois de leur vie. Puis là, ils me regardent en disant, « Pour vrai, là, tu me laisses aller, là, ça se peut, je vais en mettre partout. C'est pas grave, vas-y. » Puis si ça tombe, bien, on va rire, puis on va recommencer. Mm-hmm. Donc, c'est un peu comme faire la fête à chaque fois qu'ils arrivent dans la cuisine. C'est le fun.
L'apprentissage se fait... tout en s'amusant, ça, c'est
absolument
important.
Ce qui est vraiment le fun aussi, prenons Eliane, justement, c'est qu'à travers, Eliane aussi, de par sa formation de nutritionniste, va enseigner aux enfants, aujourd'hui, avec la recette, les aliments qu'on va manipuler, qu'est-ce que ça fait sur le corps humain? Donc, l'impact sur le corps humain. Donc, l'enfant va aussi au-delà du goûter, tout ça. Ça touche vraiment aussi à tous les sens et les apprentissages sont vraiment multiples.
Oui. Puis on se comprend que si on fait un gâteau, par exemple, on va avoir une demi-tasse de farine, mm-hmm. une tasse d'autre chose. Et au passage, on fait et du français et de la mathématique. D'aventure, on peut faire de la géographie parce qu'on va expliquer d'où le légume vient.
L'histoire
du cacao. Ouais. Alors, tout ça, l'enfant l'apprend sans qu'ils doivent être assis sur une chaise, qu'ils doivent écouter. D'ailleurs, les ateliers radio, je regarde votre studio, mm-hmm. c'est absolument ravissant. Une des choses qu'on voulait faire au départ, on voulait faire Cinéma Paradiso, nous, dans la cour de l'école. Et de fil en aiguille, on a travaillé avec des gens en médias. Et aujourd'hui, il y a des jeunes qui, par exemple, si vous leur demandez, assis sur une chaise, « Demain, prépare-moi un texte que tu vas me lire en classe », pour certains enfants, c'est extraordinairement pénible. Mais si tu leur dis « Demain, tu vas interviewer ta copine Ellie » qui vient de Thaïlande, et tu vas faire une entrevue avec elle. Et ton objectif, ça va être de nous faire découvrir Ellie et la Thaïlande. Je vous jure, l'enfant, le soir, il va se préparer le lendemain, il ou elle va arriver et elle va nous faire découvrir Ellie. Mm-hmm. Et son exposé oral va être extraordinaire, puis sa pensée va être très structurée. Mais ça va se faire autour d'une radio, comme ça. Les jeunes vont faire des vidéos, ils vont faire des montages de films, et au passage, ils apprennent des techniques. Ils manipulent des choses et c'est ce qui les sort d'un cadre très rigide.
Et ils vivent des réussites.
Ah, et c'est l'objectif.
Absolument. Oui.
Ils vivent des réussites et les parents sont très, très fiers. Et ça aussi, c'est un objectif qui est formidablement important. Alors, le lieu a été créé et c'est pour ça que le monde des affaires s'y est associé. D'ailleurs, si vous cherchez le nom de Gazmétro à la ruelle, vous ne trouverez pas ça. Tous les donateurs, ils sont là par pur altruisme, sachant que c'est notre responsabilité collective d'aider ces enfants-là. Et donc, ça a été de créer un lieu qui a coûté quand même quelques millions parce qu'on croyait qu'il fallait créer un lieu comme ça pour que ce genre d'expérience-là et de réussite puisse se produire. Il y a des choses qu'on peut faire en classe, puis il y a des trucs qu'on exporte en classe.
Oui.
Mais l'enfant qui vient à la ruelle, il y a comme un passage dans sa tête, il y a une expérience. Hein? Francine, tu en parlais, oui. Il y a un transit. Il y a quelque chose de très riche pour l'enfant de s'en aller dans un autre lieu pour apprendre.
Mmh. Oui, parce que c'est important de le mentionner, il y a des programmes parascolaires et intrascolaires. C'est bien ça, Francine?
Oui, tout à fait. Mais effectivement, le fait que les enfants viennent avec leurs enseignants dans nos locaux, ça leur enseigne aussi à, comment dirais-je, à garder une certaine créativité, puis... de garder le focus, là, si je peux m'exprimer
oui.
comme
mm-hmm.
ça, en dehors de leur classe.
Oui.
Donc, ça leur apprend à être un petit peu plus versatile dans... Puis que des lieux d'apprentissage, bien, il y en a un petit peu partout. Ruelle en fait partie.
Oui. Et à savoir évoluer dans un autre cadre qui est inconnu. Le profil de ces enfants-là, on comprend des jeunes issus du quartier Centre-Sud.
Oui.
Est-ce que ce sont tous des enfants qui vivent des troubles d'apprentissage?
Non, pas nécessairement des troubles d'apprentissage. Nous, en fait, on se concentre sur offrir nos programmes aux écoles qui proviennent de milieux défavorisés. Donc, nous, c'est ça, c'est là-dessus qu'on se concentre. Maintenant, les enseignants qui sentent qu'ils ont besoin de nos programmes viennent chez nous. Certains ont des problèmes d'apprentissage, d'autres, c'est des problèmes aussi de santé. Tout ça. Oui, certains sont identifiés, puis à ce moment-là, l'agent est informé et va travailler de pair avec l'enseignant, mais c'est pas une nécessité. Là. Nous, ce qu'on s'engage par contre à faire, c'est de choisir des écoles qui sont en milieu défavorisé.
Oui.
Et la raison pour ça elle est fort importante, puis elle était à la base du concept. C'est de dire que, on n'a pas besoin d'aller au bout du monde pour grandir dans notre cœur. Vous parliez des vacances scolaires. Il faut savoir que les enfants dans notre coin du monde, quand arrive la fin de l'école, on a des enfants qui pleurent.
Oui.
Parce qu'ils n'auront plus rien à faire. Et c'est pour ça que c'est si important pour la ruelle de continuer son œuvre pendant l'été, parce que les enfants ont la chance de vivre des expériences différentes. Vous savez, si vous êtes tout petit, vous entrez au primaire à 6 ans, et que l'école finit, que d'aventure, l'été, vous savez que vous allez aller chez votre tante à Québec ou chez votre oncle au Lac-Saint-Jean cueillir des bleuets, vous revenez, vous êtes plus riche d'une expérience de voyage, de rencontrer des gens, vous avez goûté à autre chose, vous avez vu autre truc. Si les conditions économiques dans lesquelles vous vivez vous limitent beaucoup, beaucoup dans ce que vous allez vivre d'autre que votre famille et l'école, quand ces deux enfants-là vont arriver en deuxième année, déjà,
ils
sont plus au même endroit. Et ça, vous mettez ça, et c'est exponentiel tout au cours du parcours primaire. Alors que là, lorsque l'enfant est en mesure de vivre, de faire un petit, de faire un camp l'été de cinéma, de présenter son film à ses parents, bien, tout à coup, ces enfants-là vont se développer comme n'importe quel autre enfant, malgré leur contexte économique.
Eliane, vous êtes en contact, vous êtes peut-être le pont le plus étroit ici autour de cette table avec ces enfants-là qui fréquentent Ruelle de l'Avenir. Est-ce que le contact avec les parents est également aisé? Est-ce qu'ils sont amenés à participer aux ateliers? Ou encore, est-ce que vous avez l'impression que les apprentissages que font les enfants dans le cadre de vos ateliers se rendent jusqu'aux familles?
Je dirais que plus l'année avance et plus les parents débarquent dans nos locaux. Au début de l'année, l'enfant est inscrit, puis là, il a 5 ans, il dit, il revient à la maison, « Hey, papa, aujourd'hui, j'ai cuisiné. » Fait que là, OK, bon, t'as cuisiné. Là, à chaque semaine, « Hey, j'ai fait ça. Ah, oh, j'ai fait tel truc. » Là, l'enfant en parle. Rendu à Noël, à peu près à 10 ateliers, là, j'ai des parents qui débarquent. Parce que nous, c'est très, très clair au début de l'année, quand on invite l'enseignant, que tous les parents sont les bienvenus. S'il n'y en a pas, c'est pas grave, mais s'il y a plus de parents, c'est sûr que ça se rend plus à la maison. Donc là, j'ai des parents qui débarquent puis qui disent « Là, mon enfant m'a dit qu'il cuisinait des trempettes au chocolat et aux patates douces. Écoute, c'est qui ça, Eliane? C'est qui ça? » Puis tu sais, tous les noms de mes collègues reviennent à la maison. Les parents sont curieux, ils arrivent chez nous. Puis souvent, quand ils viennent une fois, ils reviennent. Puis là, ils se disent « Ah, oh, c'est ça! » Puis là, ils voient que leur enfant de 4 ans, de 5 ans, c'est coupé, c'est mesuré, il sait brasser, il sait lire une recette si on met des dessins. Donc là, quand ils reviennent chez eux, « Ah, oh, oh oui, on va leur faire la recette. » Puis moi, je donne toutes les recettes aux enfants. Donc, c'est sûr que les parents qui viennent refont énormément les recettes. Puis chez les tout-petits en maternelle, souvent, les parents sont un petit peu plus disponibles. Donc, dans une année, je peux voir passer peut-être sur 20 enfants, des fois une dizaine, une quinzaine de parents qui viennent à tour de rôle puis qui reviennent. Donc, c'est vraiment le fun de voir. Puis après ça, deux semaines plus tard, l'enfant, il dit « Hey, j'ai fait le parfait aux fraises cette semaine à la maison. » Puis la fierté qu'ils ont, parce que là, c'était eux le prof. Le parent, il ne connaît pas la recette. Donc, c'est magnifique. Ouais.
Et après, c'est le mieux-être de toute une famille qui irradie là, à ce moment-là, suite à une nouvelle recette, des nouveaux aliments, une nouvelle façon de partager les repas. Bon, vraiment, ça a des rebondissements partout. Est-ce que le succès de Ruelle de l'Avenir, Francine, c'est aussi le contact avec ces familles-là?
Absolument, tout à fait. Et je dirais que chez nous, à Ruelle de l'Avenir, on en fait vraiment une préoccupation qui est très importante parce que, de toute façon, les études le démontrent aussi, que plus le parent est impliqué dans le cursus scolaire de l'enfant, là, dans sa vie écolière, et plus les chances de succès chez l'enfant grandissent aussi. Donc, on en fait une priorité. Les parents, comme dit Eliane, sont toujours invités à venir chez nous. D'ailleurs, s'ils peuvent pas venir durant l'année, à la fin de l'année scolaire, chaque atelier se termine par un grand événement et les parents sont une fois de plus invités à venir. Et là, souvent, les parents viennent au moins pour cette finale de fin d'année. Donc, on en fait une priorité, on y croit beaucoup et effectivement, ça a un très grand impact. Des histoires extrêmement émouvantes en ressortent souvent, puis des histoires à succès, on en aurait plein à vous raconter, on n'aura pas assez de temps, mais on pourrait
mais
vraiment...
Reste 10 minutes!
Non, mais ce serait peut-être une bonne idée, Francine, de parler de la classe de lecture parce qu'on se disait 70 communautés culturelles, c'est pas tous des gens qui arrivent en parlant un excellent français. Alors, imaginez-vous l'enfant qui est en expression orale et qui doit apprendre à lire. Alors, il apprend à lire à l'école, mais quand il arrive à la ruelle, c'est un professeur de théâtre qui lit avec les enfants et tout à coup qui interprète les différents personnages. Et les enfants sont absolument ravis parce qu'au lieu de lire des mots sur une page, tout à coup se tricote une histoire puis voit les personnages à tel point que, et là, les parents viennent. Oui. À ce cours-là, parce que c'est des parents qui ont parfois la difficulté à lire le français. Et là, ils viennent eux-mêmes assister au cours de leur propre enfant. Alors, quand l'enfant revient à la maison le soir, c'est certain que c'est une autre histoire que de dire « Maman, je dois apprendre à lire ». De là l'importance des familles.
Absolument. D'ailleurs, dans les ateliers de lecture, on se fait un devoir parce que... en classe, puis ça, c'est correct, c'est la mission de l'école. Oui. En classe, la lecture, ça passe beaucoup aussi, évidemment, par le français. Donc, si on entoure le sujet, le subjonctif, bon, le complément et tout ça, et l'enfant focus tellement là-dessus que souvent, à la fin, si l'enseignante lui demande de quoi parler l'histoire...
Oui, le sens, on passe à côté
on,
un peu.
On s'en rappelle pas. Alors que chez nous, bien, on s'attarde pas à ces détails-là. Donc, au contraire, c'est ça, on plonge dans l'histoire avec nos actrices qui sont extraordinaires et qui font vivre vraiment l'histoire aux enfants. D'ailleurs, ils peuvent prendre un conte qui est très connu et le faire connaître aux enfants dans les 52 langues dans lesquelles ils ont été traduits, un exemple. Et là, les enfants reconnaissent leur version et effectivement, ça développe énormément le goût de la lecture, ça développe la passion chez les enfants. Et d'ailleurs, encore une fois, on invite les parents à venir et il y a des moments où il y a presque plus de parents que d'enfants. Donc là, il faut comme dire, bien, on va les prendre par groupe parce que ça, sont toutes dans le corridor, puis on en a vraiment beaucoup.
Une ruelle de l'avenir pour les adultes.
Mais ce que ça démontre, c'est qu'on a un bon système d'éducation au Québec, mais ce que ça démontre, c'est qu'il y a de la place pour faire mieux dans certaines circonstances. Et ce que ça démontre, c'est que ça prend un coup de pouce de la société civile dans son ensemble pour que des initiatives comme ça, ou comme d'autres, il y en a plein d'autres. Mm-hmm. Celle-là, elle est assez unique parce qu'on croit que le fait de rallier le monde communautaire, le monde scolaire, le monde des affaires, a créé quelque chose d'assez unique.
On prend une courte pause sur ces paroles de Sophie Brochu. On vous revient dans une minute, à peu près.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
En onde avec mes trois invités, mes trois femmes du jour. Discussion très intéressante sur pourquoi c'est important d'investir dans l'apprentissage, la réussite de nos jeunes. Francine Charret, directrice générale de l'organisme Ruelle de l'avenir. Eliane Touga-Tellier, nutritionniste à ce même organisme. Et Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro. Vous disiez avant la pause, Sophie, que c'est important de rallier autant les gens qui travaillent du côté communautaire, scolaire, des affaires. Et d'ailleurs, il faudrait souligner ce prix que vous avez reçu début mai, donc à la recommandation du HEC offert par l'Université de Montréal, doctorant honoris causa. Et vous avez dit ça, pour rassembler, il faut être capable de demander. Et ça me sonne des cloches et ça rebondit un peu sur ce que vous avez dit avant cette pause. Comment on interpelle le milieu des affaires à... Bon, il y a Ruelle de l'avenir, mais il y aura intérêt à ce qu'il y ait d'autres genres d'initiatives un petit peu partout au Québec pour aider d'autres jeunes dans le besoin qui ont des cheminements parfois un petit peu plus ardus.
Bien, écoutez, je pense qu'il y a de très, très nombreuses entreprises qui supportent de très, très nombreux organismes. Je pense que la prochaine avancée dans les meilleures pratiques, c'est de mettre ce que j'appelle l'écosystème de la société civile autour de la table. Parce que les organismes communautaires, si je regarde mes collègues ici, elles déploient leur talent dans la gestion de leur organisme. Leur demander de courir après de l'argent, c'est les mettre à bout de souffle. Elles ne sont pas dans leur zone de talent, donc il faut qu'il y ait des gens qui prennent le relais. Et là, ça prend des gens d'affaires qui quêtent des gens d'affaires. Moi, quand je quête pour un organisme, je ne me sens pas comme une quêteuse. Mm-hmm. Je me sens comme un investisseur dans une entreprise sociale qui cherche d'autres investisseurs.
Et, des entreprises amies aussi.
Absolument. Il y en a eu plusieurs autour de la ruelle. Donc, je pense que les organismes communautaires ne doivent pas être gênés de demander à des gens d'affaires, écoutez, donnez-nous un coup de main. Nous, on ne peut pas porter le financement de nos organismes seuls. Il faut qu'ils s'y impliquent, mais ça prend des gens qui leur donnent, travaillez, faites ce que vous avez à faire, exercez votre mission, votre talent extraordinaire et si important, et nous, on va s'occuper de financer le tout. Alors, ça prend des organismes d'affaires qui...
Et c'est de au-delà de l'engagement financier, ça devient de l'engagement personnel, il faut que ça soit
c'est
là.
C'est immense. C'est une chose d'investir, c'est une autre de s'investir.
Ouais.
Et mettre un enfant au monde, c'est une chose, le garder pour une soirée, c'est une autre.
Oui, oui. Justement, j'imagine, Francine, que ça, c'est un obstacle au quotidien, cette recherche d'argent, cette recherche de financement. On peut vous aider comment, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment?
En fait, c'est sûr qu'effectivement, la demande, on ne se le cachera pas, la demande, elle est plus grande que notre capacité actuellement de répondre à tous ces besoins-là. Effectivement, on est extrêmement privilégié d'avoir Gaz Métro qui nous soutient, nous supporte, mais je vous dirais que la façon la plus simple pour des gens qui voudraient s'impliquer, c'est de communiquer directement avec nous, soit par téléphone ou via notre site Internet, et de voir ensemble, on peut échanger après sur les différentes façons là, de soutenir l'initiative de Ruelle.
Ruelledelavenir.org, on glissera ces informations, bien sûr, sur notre site. Il reste très peu de temps. Je veux parler du camp estival cet été qui s'adresse peut-être plus précisément aux adolescents, c'est bien ça? Eliane,
Vas-y, Eliane.
Oui, bien, le camp La Ruelle potagère, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme le toit qui est au-dessus de nos locaux en un potager urbain avec une horticultrice. Les enfants arrivent le matin, sont invités à s'occuper du potager sur le toit, descendent avec les légumes avec moi à la cuisine pour transformer ces légumes-là parce que des aubergines, des courgettes, c'est pas toujours super connu. Et ensuite, à la fin de la semaine, vont suivre des cours de marketing pour aller vendre ces légumes-là au marché. Donc, c'est vraiment entrepreneurial. Les enfants s'impliquent tout au long de la chaîne, découvrent plein de choses. On fait des sorties, on s'amuse avec eux. Puis, au bout de la ligne, ben, ils vont dans un vrai contexte de vente avec des gens. Ils doivent se pratiquer. Puis ensuite, c'est sûr que sur un CV d'adolescent, ben, quand il veut se trouver un emploi...
Une graine d'entrepreneuriat. Ça, c'est l'atelier.
Ça doit vous plaire,
c'est
ça.
Mais ça, c'est l'atelier fondateur. Quand on a fait la ruelle, on a dit, ça nous prend. Puis on a aménagé le toit. C'était l'atelier fondateur de la ruelle pour permettre aux enfants d'être en contact avec la nourriture, le transformer, apprendre, aller au marché, développer l'entrepreneuriat. C'est si simple.
Oui.
C'est si simple.
Mais il faut mettre l'épaule à la roue, voilà. Donc, Ruelle de l'avenir ne prend pas de congé, même pendant l'été, pas de vacances.
Pas de vacances estivales.
Mais en même temps, une très belle période aussi pour ces enfants qui participent à la Ruelle pendant l'été. Merci d'avoir été des nôtres. Il y aurait eu encore tellement de choses à dire. Un grand luxe d'être ensemble pendant 30 minutes, mais quand même trop court. Francine Charret, directrice générale de l'organisme Ruelle de l'avenir. Eliane Touga-Tellier, vous êtes nutritionniste. Et Sophie Brochu, présidente et chef de la direction de Gaz Métro. Un bel été à vous et un très bon succès. Je pense que je vais aller vous visiter.
Ce serait formidable. Vous êtes la bienvenue. Absolument. Et nous vous remercions de l'accueil extrêmement chaleureux que vous nous avez fait cet après-midi.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Merci.